Nous te remercions d'avoir envoyé ton fils Jésus et nous te remercions, Jésus, d'être venu. Nous te remercions de faire pour nous ce que nous ne pouvons faire nous-mêmes. Nous te remercions, Père et Fils, d'avoir envoyé le Saint-Esprit de demeurer en nous et au milieu de nous. Et nous reconnaissons juste notre dépendance en ces moments pour être capable de voir, de comprendre, de recevoir ta parole pour nous en ce jour. D'être capable de vivre ces paroles dans nos vies pour ta gloire. Alors Seigneur, nous demandons que ce travail miraculeux au milieu de nous puisse agir, la comprendre, qu'il nous donne une nouvelle vision, qu'il nous donne la foi de mettre en pratique, de vivre par cette vérité de ce qui tu es, au nom de Jésus, amen. Pouvez vous asseoir. Alors bonjour à tous ici dans l'auditoire, dans ce sanctuaire ce dimanche matin avant Noël et aussi à ceux qui nous regardent en ligne et dans la connexion. Je crois que vous allez être d'accord avec moi, à travers le monde, il existe un désir profond pour un bon leadership. Dans nos temps incertains, nous cherchons des leaders marqués par l'intégrité, la compassion et la sagesse. Dans un monde des faux récits, nous cherchons des leaders marqués par l'intégrité, la compassion, qui ont la vision, qui ont la compréhension et la clarté. Dans un monde où les gens se servent tellement, nous voulons des leaders qui soient dignes de confiance. Dans ce temps que Dieu donne les mots que le pasteur Vin vient juste de lire, le royaume de Juda est dirigé par un très mauvais leader. Le royaume de Juda est menacé par le royaume au nord d'Israël, la Syrie, et ils sont prêts à faire la guerre à Jérusalem. Et selon les Écritures, le roi et le peuple tremblent comme des arbres secoués par le vent. Le roi Akaz reçoit un conseil clair du Seigneur par le prophète Ésaïe. Ne crains pas. Et le Seigneur exhorte le roi Akaz à demander un signe, n'importe quoi qui le convaincrait de la présence et de la puissance de Dieu. Au lieu de demander un signe à Dieu, le roi Akaz ferme le temple. On peut le lire dans 2 Chroniques 28 et 2 Rois 16. Au lieu de mettre sa confiance en Dieu, il met sa confiance à la superpuissance de l'époque, la Syrie. Au lieu de s'humilier devant Dieu, il sacrifie ses fils aux idoles. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, il consulte les esprits par les médiums. Le roi Akaz s'enveloppe des ténèbres spirituelles. Et le peuple de Juda suit son leadership. Ils rejettent la présence de Dieu vivant parmi eux. Ils maudissent Dieu et le roi. Le roi et Akaz conduit la nation à la ruine par son leadership. Nous aspirons à des bons leaders gouvernementaux, mais ce n'est pas seulement dans l'arène politique que nous aspirons à des bons leaders. Les enfants aspirent à des bons parents, les épouses à des bons maris, les étudiants à des bons professeurs, les jeunes hommes et femmes à des bons mentors, et les membres d'église à des bons pasteurs. Où trouvons-nous un leadership bon, fort et compatissant? En réponse à notre question, Ésaïe 9 résonne d'espérance. Un enfant nous est né. Jésus naît dans notre histoire humaine. dans une famille particulière à un moment et à un lieu précis. Il est le fils de David, descendant directement de la lignée royale du roi de David, par Joseph et par Marie, comme le révèlent les généalogies de Matthieu 1 et de Luc 3. Il est l'héritier légitime du trône de David. Un fils nous est né. Pas seulement ça, Jésus est donné par Dieu, le Fils de Dieu. Hébreux 1. Et dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. L'incarnation du Fils de Dieu est l'événement le plus stupéfiant de l'histoire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est Jean 1:1. Et la parole était faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Et si tu es un disciple de Jésus, tu entends le nom Emmanuel, ça apporte le réconfort, l'espérance. Mais imagine seulement si tu n'étais pas bon, si Jésus était un démon, cette affirmation serait une terreur sans fin. S'il était seulement juste, sa présence ne serait pas une bonne nouvelle. Elle nous ferait peur. La bonne nouvelle de Jésus avec nous est révélée à travers ses noms. Et ils décrivent son caractère, sa nature et sa mission. Jésus est le leader parfait. Il est le conseiller admirable. Jésus est le merveilleux. Et la merveille qui œuvre toujours avec une sagesse infinie. Comme nous avons entendu la semaine passée, il est le Dieu puissant, le roi guerrier, notre guérisseur, libérateur, pourvoyeur, sauveur, notre roi. Et le troisième titre est le Père éternel. Premièrement, ce titre ne signifie pas que Jésus est Dieu le Père. Dans la pensée moyen-orientale, le titre Père souligne la qualité de la relation du roi avec ses sujets. Le roi décrit est bon, fort et compatissant, comme un bon père. Pas tous d'entre nous avons eu, nous n'avons pas tous des pères bons et compatissants. Certains d'entre nous peuvent avoir du mal à penser à Jésus comme un bon père parce que nous avons des blessures paternelles. Nos pères terrestres n'étaient pas aimants, compatissants, présents et bons. Ils étaient méchants, absents ou oppressifs. Ils ne prenaient pas soin de nous, ils ne pourvoyaient pas, ils ne nous conduisaient pas avec sagesse. Ils nous ont blessés, nous ne voudrions peut-être pas que Jésus soit comme un père. Mais pourtant, l'un des plus grands désirs que Dieu ait mis dans le cœur humain est celui d'un bon père. Et si vous cherchez un père, Jésus veut être pour vous quelqu'un que lui seul peut être. Il est le bon père. Fort pour toujours, compatissant pour toujours, bon pour toujours. Premièrement, fort pour toujours. Jésus n'était pas seulement un joli bébé né dans une mangeoire, il est né pour être un roi, un souverain. Ésaïe 6:9, car un enfant nous est né, le fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Pourquoi l'épaule? Le symbole royal était porté sur l'épaule. La responsabilité entière d'un bon gouvernement reposait sur les épaules de celui qui portait les symboles royaux. Voici un exemple tiré d'Ésaïe 22. Dans ce passage, Dieu donne une autorité immense sur la cour royale. à un nouvel intendant, Eliakim, Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera. Quand il fermera, personne n'ouvrira. Avec la clé de la maison de David en main, Eliakim a et la responsabilité posée sur lui, Eliakim a l'autorité d'accorder ou de refuser l'accès dans la cour royale. Dans Apocalypse 6, 3, 7, la clé de la maison de David est détenue par un nul autre que Jésus. Personne de celui qui est saint, véritable et qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus détient les clés de la vie et de la mort. Il a le pouvoir absolu d'ouvrir et de fermer l'accès au royaume de Dieu. Quelle puissance, quelle autorité. Et son règne n'est pas seulement un règne de 10 ans ou de 20 ans, son règne est pour toujours. Écoutez la voix du ciel. Apocalypse 11, 15b. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle de siècles. Il est difficile de dire ces mots sans entonner un chant. Il n'y aura pas de fin à son règne. Jésus accomplit l'alliance de Dieu avec le roi David. 2 Samuel 7, 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, et ton trône sera affermi pour toujours. Cette promesse est écho dans les paroles de Gabriel à la mère de Jésus, Marie, Luc 1. Il sera grand et sera appelé fils de Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Et c'est pas seulement pour toujours, c'est universel. Jésus a dit à ses disciples en Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pas 50%, pas 80%. Tout pouvoir, il est très fort, tout puissant, Dieu puissant. Et encore, il est dit dans Matthieu 11, toutes choses m'ont été données par mon Père. Il tient toute l'histoire humaine entre ses mains. Très, très puissant. Très puissant. Mais est-il compatissant? Eh bien, écoutez le cœur de Jésus. J'ai juste lu le verset 28. Toute chose m'a été donnée par mon Père. Et après ça, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoutez son cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vous, pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Venez, un des mots préférés de Jésus. Il ne dit pas venez à la religion, venez à l'église, venez à la spiritualité, ni même à ChatGPT. Il n'est pas un bot d'IA impersonnel, d'intelligence artificielle. Jésus nous invite à venir à lui faire confiance personnellement, à marcher avec lui. Il est compatissant pour toujours. Venez. L'invitation est pour nous tous. Qui sommes-nous? Nous sommes ceux qui sont fatigués et chargés. C'est ce que nous sommes. Nous sommes les travailleurs, les fatigués. Nous sommes là à cause d'un patron injuste, d'un conjoint indifférent, d'un parent autoritaire ou peut-être d'un enfant rebelle. Nos relations familiales et professionnelles nous fatiguent. Nous sommes lasses à cause de l'injustice, de la douleur et de la tristesse dans notre monde. Pourtant, Jésus est compatissant pour toujours. Dans Matthieu chapitre 9, après avoir guéri avec compassion un paralytique, après avoir accueilli avec compassion les collecteurs d'impôts et les pécheurs, après avoir guéri avec compassion une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, après avoir rendu des compassions, a rendu avec compassion la vie à la fille d'un chef de synagogue, après avoir guéri avec compassion deux aveugles, après avoir guéri avec compassion un muet possédé par un démon, les chefs religieux disent que Jésus chasse les démons par le prince des démons. Ils déclarent que Jésus est possédé par le diable lui-même. Pourrait-il être plus offensant? Pourrait-il être plus blasphématoire? Je ne pense pas. Pourtant, en ces moments-là, nous lisons, quand Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger, compatissant pour toujours. Le mot grec pour compassion est un mot viscéral, un mot qui va au plus profond de nos émotions. En français, nous dirions en avoir des boyaux noués. Jésus regarda les gens et cela lui noua les entrailles. Qu'est-ce qui vous noue les entrailles? Peut-être que vos entrailles se sont nouées cette semaine à cause des examens finaux. Je me souviens de cette expérience. Ou peut-être attendiez-vous les résultats d'une biopsie, ou vous avez senti que quelqu'un essayait de vous miner au travail. Ou vous avez pris conscience de méchantes rumeurs dans votre dos. Ou vous avez dû afficher votre évaluation annuelle au travail. Ou vous avez pris davantage conscience de lutte de votre enfant et vos entrailles se sont nouées. Qu'est-ce qui a noué les entrailles de Jésus? Les gens. Des gens qui étaient languissants et abattus comme des brebis qui n'ont point de berger. Voici les mots qui décrivent notre réalité aujourd'hui. Le mot languissante signifie inquiète, anxieuse, troublée, désorientée, manquant de direction. Dans notre langage, la détresse mentale et émotionnelle, nous sommes la génération anxieuse. Le mot abattu fait référence à des gens qui ne peuvent pas se relever seuls, ne peuvent pas se secourir eux-mêmes, ne peuvent pas échapper à leurs tourmenteurs. Ils sont mentalement et émotionnellement épuisés, sans espoir. J'ai dit qu'ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger. Personne pour prendre soin, pour protéger, pour nourrir, pour aimer. Personne pour guider, pour enseigner. Que savons-nous des brebis? Premièrement, elles apprennent lentement. Regardez cette vidéo. On l'a sortie, elle est sauvée et puis elle revient encore. La même chose. Qu'est-ce que ces fermiers pensent? Je veux juste aller voir mon linge, je perds mon temps. Elles se coincent dans les barbelés en essayant de passer à travers une clôture et font la même chose le lendemain et le surlendemain. S'égarent facilement et elles se perdent. Sont très dépendantes quand elles se couchent et si elles se retrouvent sur le dos, elles ne peuvent pas se relever seules. On utilise la phrase retourner, impuissante, elles peuvent suffoquer. Quand Jésus a vu la foule dans leur fragilité comme nous, fragile et brisée, il ne les a pas méprisés. Il a eu compassion d'elles et il a été profondément ému quand il a vu des gens qui souffraient spirituellement, mentalement, émotionnellement et relationnellement. Et j'ai lu dernièrement Jean, comment il voyait la souffrance des gens autour de lui, comme à Lazare, il est profondément ému. Il était profondément ému quand il voyait les gens souffrir mentalement, spirituellement, dans les relations. Il voulait les embrasser, les aimer, les prendre soin d'eux et les guider. Retournons à Matthieu 11. Quelles sont ces brebis que Jésus appelle? Nous sommes les brebis que Jésus invite à venir à lui. Nous sommes ceux qui ne peuvent pas se relever seuls. Nous sommes mentalement, émotionnellement en détresse. Nous sommes ceux qui portent le joug. Un joug est un cadre en bois unissant deux animaux pour tirer des lourdes charges ou un joug humain. Un joug humain porté par une seule personne répartissant le poids d'une charge sur les épaules. Le joug est lourd, il est oppressant. Qu'est-ce qui vous met sous le joug aujourd'hui? Qu'avez-vous apporté à l'Église aujourd'hui? Une des choses concernant le joug que nous portons et que nous avons souvent. Des fois, ça nous est imposé par d'autres, par notre famille, par notre communauté ethnique, notre patron, ou des fois même par Dieu lui-même, quelqu'un qui nous a un peu chargé. Et il n'y a pas moyen d'en échapper. La première étape pour être libéré de notre joug est de reconnaître quelque chose. On doit aller à Matthieu 11, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le temps du verbe est important ici. Si Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes surchargés vous-même. La première étape pour être libéré, pour trouver le repos, est de reconnaître que l'épuisement excessif est parfois de notre propre fait. Nous portons soit des jougs que nous n'étions pas censés porter. Nous portons des jougs que nous d'une manière que Dieu n'a jamais voulu pour nous. Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Mon joug est doux. Mon fardeau est léger. Il nous invite à changer des jougs. Quel est votre joug aujourd'hui? Est-ce vous tentez à vous mesurer à d'autres? Le fardeau est-il imposé par vos parents? Est-ce le fardeau, la culpabilité? C'est toutes les générations, les enfants qui continuent à porter les fardeaux de leurs parents. L'histoire qu'ils ont vécue pendant qu'ils étaient enfants, ils n'ont jamais été libérés de ça. Jésus nous offre son joug. Quand nous sommes sous son joug, son leadership à jamais fort et en tout temps et en tout lieu tout puissant, jamais, à jamais compatissant, nous sommes déchargés. Jésus porte notre lassitude, il porte tout ce qui pèse sur nous. J'ai dû confier beaucoup de choses à Jésus encore et encore et encore cette année passée. Pourquoi? Parce que je me charge si facilement moi-même. Je crois que tout dépend de moi et je peux porter tout et je suis sûr que vous le faites aussi. Chaque fois que les épaules de Jésus se voient, ses épaules se voient confier le fardeau du leadership, les épaules de son peuple sont déchargées. Là où Jésus règne, les ténèbres sont dissipées par sa lumière. La tristesse est remplacé par sa joie. Notre oppression est ôtée et remplacée par sa liberté. Comme le pasteur Boyan nous l'a rappelé la semaine passée, Jésus brise le pouvoir du péché, de la mort et du péché et du malin. Jésus dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Littéralement, il dit, je vous reposerai. Le repos n'est pas un produit qu'il met dans nos mains. Non. Prenez du repos. Le repos vient d'une relation personnelle. Être avec lui, il nous donne le repos. Jésus lui-même offre et notre vie, la puissance vivifiante et la restauration en nous. Jésus dit, venez à moi et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. C'est le seul endroit dans les Écritures où Jésus s'est décrit lui-même. Il veut, n'est-ce pas fascinant, il veut que nous sachions qu'il est doux et humble. Il n'est pas exigeant. Jésus n'est pas cruel. Il ne va pas nous manipuler. Il ne rétorque pas, il est trompeur, instable. Il ne change pas, il est constant. Il dit, venez à moi et tu trouveras du repos pour ton âme. Le mot âme dans la Bible fait référence à notre esprit, nos émotions et notre volonté. Jésus sait à quel point nos âmes sont sensibles. Alors il offre du repos pour notre vie, nos émotions, nos craintes. Il nous invite à apporter vers lui nos émotions, nos colères, nos amertumes. Je voulais parler de nos doutes, excusez-moi. Et nos anxiétés, nos peurs, nos colères. Il veut que nous puissions prendre cette décision, les choix de vie. Jésus repose notre esprit, nos émotions et notre volonté. Il dit, viens à moi et je te donnerai le repos. Écoutez le témoignage de quelqu'un qui a reçu le repos de Jésus. Bonjour, je m'appelle Georges. Je veux vous raconter mon histoire. Je veux revenir quand j'avais 19 ans. Je vivais avec mon frère et mes parents. Et mon frère avait trouvé Jésus. Il m'avait invité à chaque fois à l'église. Quelque chose que je ne voulais pas. Et puis j'ai eu une perte dans ma vie. Et son invitation a donné du sens. J'ai commencé à aller à l'église avec lui. Mais je vivais ma vie comme je le faisais avant. Pendant 4 mois, alors que après, le pasteur me rencontra une fois à l'entrée de l'église et m'invita dans sa classe. Quelque chose qui fut que j'apprenne Jésus. Et j'ai commencé à étudier avec lui. Il a ouvert la parole vers nous et il nous a donné des devoirs chaque semaine. Et la première semaine, avec la première question, était... Décris ton salut, l'expérience de ton salut. Une moitié de page. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Étant un bon étudiant, j'essayais la deuxième question, mais la première n'était pas capable de. Et le samedi, après, à la veille de cette classe, j'étais dans ma chambre, une grande chambre, j'étais en train de marcher et j'ai eu l'expression distincte que j'étais avec quelqu'un qui me disait, George, c'est le temps de faire une décision, prendre une décision. Tu dois aller de l'autre côté. Et le dimanche 20, on se rencontra avec le pasteur. Tout d'un coup, avec le pasteur, ne puisse même commencer la classe. Je ne savais pas comment répondre à cette question. Je n'avais aucune idée. Et il stoppa. Il m'a conduit vers Jésus. J'ai prié la prière du péché, du pécheur, j'ai invité Jésus dans ma vie. Et après ça, tout changea pour moi. Jésus marche avec moi depuis dans des grandes décisions de la famille, dans tout ce que je fais. Il a toujours été avec moi. Il y a un verset qui me rappelle ce que Jésus a fait pour moi qui vient de Colossiens 1, 13. qui nous a sauvés de la domination, de le domaine des ténèbres et nous a amenés dans son royaume du Fils de son amour. C'est lui qui m'a amené, qui m'a sorti du ténèbre, il a invité dans son royaume des lumières. C'est celui-là mon Seigneur, mon roi. La décision de Georges, et après avoir pris sa décision, le cœur de Georges a été changé. Il a marché avec, depuis qu'il était adulte, jeune adulte, jusqu'aujourd'hui, avec marché avec Jésus, comme Jésus est fort, compassionnant et pour toujours merveilleux. Et dans Jean 10, Jésus dit deux fois, je suis le bon berger. Et quand Jésus dit, je suis le bon berger, il exprime le cœur même de la signification de Père éternel. Qu'est-ce que signifie bon? Dans notre culture, bon n'est pas assez bon. Si tu invites les gens pour un dîner et après ils te demandent comment était le dîner que vous avez préparé pour vos amis et que vous répondez bon, cela signifie que c'était pas terrible, c'était moyen. Quand un leader politique, une célébrité ou un athlète a été pris dans un délit, la confession ressemble souvent à ceci. Je reconnais ce que j'ai fait, je n'agissais simplement pas conformément à mon caractère. C'est pas qui je suis, mon cœur est bon. J'ai juste eu, je promets de faire mieux, j'ai juste eu un mauvais moment. Je me souviens avoir vu l'enseigne d'un cabinet médical dans un autre pays. Elle avait été traduite en anglais et disait ce que ça voulait dire. Ça voulait dire un médecin plutôt bon. Et j'imagine que le cabinet voulait dire, le médecin voulait dire que le médecin était à la fois juste et bon. Mais les mots signifiaient littéralement qu'il était moyen, entre à ton propre risque. Nous devons comprendre ce que le mot bon signifie réellement dans Jean 10. Le mot signifie beau. Tout à fait admirable, dans une classe à part, par excellence, sans égal. Dans Hébreux 13, verset 20, Jésus est appelé le grand berger de brebis. Nous avons besoin d'un grand berger parce que les loups cherchent la brebis faible et brisée. Il cherche le faible, le brisé, le plus âgé, les petites, les blessés. Ils attaquent les blessés. Satan n'a pas de scrupules. Mais Jésus prend tendrement soin. Il est le grand. Il est là pour nous protéger, nous guider. Nous pouvons le suivre pendant le jour, écouter sa voix la nuit, entendre ses conseils pour éviter le danger et lui faire confiance pour nous conduire au bon pâturage. Il est à jamais bon. Dans le contexte du chapitre Jean 10, il dit un homme né aveugle est venu amené à Jésus et Jésus le guérit le jour de sabbat. Et les leaders religieux sont fâchés. Ils interrogent ce monsieur qui a été guéri, cet aveugle, et ils le chassent. Il est ostracisé de la communauté. Plus tard, Jésus reçoit la parole de ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, il le trouve. Se révèle à lui, le monsieur devient fils de Dieu. Tout ceci est si bon, mais savez-vous ce qui fait de Jésus le grand berger de Jean 10, 12. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour les brebis. Encore au verset 14, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. À l'époque de Jésus, les bergers ne donnaient pas leur vie pour leurs brebis. Ils les protégeaient, oui, mais ils devaient rester en vie pour le reste de leur troupeau. Dans Jean 10, Jésus dit, « Je donne ma vie pour les brebis. » Il le dit 5 fois. C'est ça qui le distingue. Dans l'évangile de Jean, le mot « pour » est toujours utilisé dans le contexte du sacrifice. Il signifie mourir à la place de. Jésus va mourir à la place, au lieu de quelqu'un d'autre. Quand il est mis sur la croix, il remet son cœur à Dieu. Sa mort n'était pas une. C'était pas le fait de devenir martyr. Pas juste le résultat d'une colère de la foule. Pas juste une tragédie perpétrée sur une personne. Mais c'était un sacrifice volontaire du bon berger pour ses brebis. Pour Jésus, c'était personnel. Jésus dit, dans Jean 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Mais nous n'étions même pas encore ses amis. Nous étions ennemis de Dieu. Il n'y avait rien en nous pour nous recommander à Dieu, mais il s'est donné pour nous. Il nous a aimés, il s'est donné pour nous afin que nous soyons enfants et filles de Dieu aujourd'hui. Il est mort afin que... qu'il remonte pour nous donner la résurrection. Il dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix et je les connais, et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Jésus est le grand berger de brebis, pour toujours puissant, toujours compatissant, toujours bon. Savez-vous quoi? À travers le monde, on estime qu'il existe plus de 200 races de moutons distinctes, avec 1000 autres variations. Les moutons ont toutes sortes de tailles, de formes et de couleurs, tout comme nous. Des toisons différentes, des faces de couleurs différentes, mais ils sont fondamentalement tous les mêmes. Des brebis lentes à apprendre, s'égarant facilement, dépendantes, copieuses. Quand on fait partie d'une génération, on croit que notre génération est unique. Quand on compare les différentes générations, baby boomer, génération X, millennial, génération X, génération alpha, vous savez ce qui révèle? Nous sommes en fait identiques à plus de 80%. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les jeunes. Je suis 80% pareil à mes parents? Non. Dans nos cœurs, nous sommes les mêmes. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus nous aime tous de la même manière. Il nous aime tous de la même manière. Au cours des 2000 dernières années, Jésus a appelé des brebis par leur nom parmi tous les peuples et toutes les nations, les générations. Il ne nous sauve pas seulement des nos péchés. C'est toujours son appel. Jésus ne se contente pas. Il nous appelle à lui. Nous devons venir à lui et le connaître, le bon berger. Nous apprenons à le connaître quand nous nous détournons de notre indépendance et nous portant nos propres charges seuls. Et il nous invite à venir à lui, le bon berger. Et afin qu'il puisse porter à ses épaules. Seulement quand nous venons à lui, que nous marchons sur sa lumière, sa liberté et son joie, il nous dit aujourd'hui, nous qui sommes chargés, nous qui sommes sans aide, venez à moi et je te sauverai. Je porterai ta charge, je vais te donner le repos. Je suis ici pour te protéger, pour te guider, pour te restaurer. Jésus est si bon, plus que capable de faire tout cela. Et nous devons venir à lui. Nous devons venir à lui. Pourquoi ne devrions pas venir vers lui? Si tu es un disciple de Jésus, pourquoi ne voudrais-tu pas venir vers lui aujourd'hui? Si tu n'as jamais donné, tu n'as jamais fait confiance à Jésus, pourquoi ne voudrais-tu pas venir aujourd'hui? Prions. Nous allons faire une prière pour ceux d'entre nous qui sont disciples de Jésus et ceux d'entre nous peut-être qui veulent prendre cette décision comme j'ose. Je veux suivre Jésus. J'entends le Saint-Esprit me parler ce matin et je vais prendre cette décision de suivre Jésus aujourd'hui. La première prière pour ceux d'entre vous qui sommes disciples. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es si gracieux, patient, doux envers nous. Tu sais comment nos âmes sont sensibles et tu nous comprends complètement. Et alors, nous, tes disciples aujourd'hui, fais-nous grâce aujourd'hui et que nous puissions te donner nos fardeaux, que nous puissions prendre ton joug qui est doux, que nous puissions te suivre. Toi qui es puissant, compassion, tu as la compassion. Pardonne-nous de vouloir le faire par nous-mêmes si souvent. Et nous, juste te louons et te remercions de le grand berger. Merci de nous avoir attirés à toi. Merci parce que tu vas compléter ton travail en nous. Merci parce que nous pouvons faire confiance à ta foi, à ta bonté et ton amour, ta justice. Merci parce que tu ne changes pas, tu es toujours le même. Tu nous méprises pas dans nos faiblesses, mais tu nous donnes ta main et tu dis « Venez à moi ». Et maintenant, la prière pour ceux d'entre qui voudront te soumettre leur vie parce qu'ils comprennent ce qui est ce que tu dis. Tu es le bon berger, le grand berger et tu donnes ta vie pour toi. Et tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. S'il te plaît, suis-moi alors que je fais cette prière. Si tu veux voir la prière, elle va être affichée à l'écran maintenant. Jésus, tu es le bon berger. Merci pour l'invitation de te connaître, de venir à toi. S'il te plaît, pardonne-moi de guider ma vie séparée de toi. Jésus, guide-moi. Aujourd'hui et pour toujours, sois mon berger, je choisis de te faire confiance, remplace mes ténèbres avec ta lumière, mes soucis avec ta joie, mes charges avec ta liberté. Merci Jésus d'être mort sur la croix pour moi. Mourir au lieu de moi, mourir à ma place, payer le prix de mes péchés. Je me repens de mes péchés, de mes pensées, de mes attitudes, de mes actions qui vont à l'encontre de qui tu es, de ta volonté, et je te soumets toute ma vie, je tourne vers toi pour le pardon. Je te remercie de me donner la vie, une vie nouvelle, maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, nous voudrions vous encourager dans votre parcours. S'il vous plaît, partagez avec celui qui vous a amené. Vous pouvez avoir une conversation avec un pasteur. Une autre option, c'est d'aller au centre de bienvenue et connectez-vous avec un de nos des gens qui des membres de notre équipe. Et nous allons aller conclure avec.